et bonjour et merci aux intervenants et à l'intervenante qui nous font le plaisir d'être ici maintenant pour cette quatrième table des états généraux du poème qui est consacrée à poème, images et sons. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Langlois, Florence Pazotu, Jean-Max Collard et Stéphane Lambert. C'est-à-dire d'accueillir à la fois des poètes, des compositeurs musicaux, des réalisatrices de cinéma, des curateurs d'expositions, des plasticiens, enfin bref, d'accueillir beaucoup de monde en fait derrière ces quatre personnes-là. Et du coup, cette rencontre, cette précisément table ronde, j'aimerais la placer sous ce mot-là, celui de rencontre. J'avais hésité avec le mot de croisement, mais le mot de croisement me semble à la réflexion un peu trop rapide, peut-être un peu trop superficiel. Et ce que je voudrais vraiment qu'on discute aujourd'hui, c'est la manière dont vos pratiques, plutôt que vos œuvres, parce que je trouve que le mot œuvre a un côté figé, qui est l'inverse de ce que vous faites, mais vos pratiques mêlent à la fois la littérature et les arts, voire les arts, puis la littérature, et par littérature, poésie, mais dans des sens qui sont tellement différents et qu'on va creuser ensemble là, qui mêle poésie et cinéma chez Florence Pazotu, qui mêle cinéma et musique de votre côté, Philippe Langlois, cinéma et roman, Jean-Max Collard, sous votre casquette de chercheur, poésie et art plastique, sous une autre casquette que vous avez, Stéphane Lambert, poésie et peinture, roman aussi, mais ce n'est pas de cela que nous parlerons aujourd'hui vraiment. Des rencontres entre personnes, entre artistes, amitiés rêvées, compagnonnages effectifs, enfin bref, des rencontres entre l'art et le monde, s'il fallait employer des mots absolument massifs, qui posent aussi cette question-là, quand la poésie arpente le réel, comment, avec quels moyens, avec quelles aides, quelles béquilles, quelles tentatives. Alors bon, maintenant je vous présente, pour de vrai. Commençons, alors Florence Pazotu, commençons par vous. Vous êtes poète et cinéaste et vous avez fait paraître une quinzaine de livres chez différents éditeurs. Vous avez réalisé quelques courts films de cinéma, des scénographies vidéo, mais aussi des créations scéniques, des lectures performées de vos propres textes, des installations vidéo, une foule de choses. Vous animez depuis 2018 les Cris poétiques, il me semble, c'est-à-dire des rencontres de poésie contemporaine qui sont créées à Apt, dans cette ville-là. Et vous travaillez très régulièrement aussi avec des artistes plasticiens, en particulier avec Ginée M et les metteurs en scène Rachel Dufour et Aurélie Leroux. Vous avez beaucoup voyagé, je ne citerai pas l'ensemble des villes que vous avez parcourues, et j'aimerais parler plus particulièrement de vos films de cinéma, de vos films poèmes et particulièrement de Trivial Poème peut-être, qui date de 2017, qui a été sélectionné au FID de Marseille, mais pas seulement, au Festival international Signe de Nuit de Paris, et présenté à Actoral, ainsi qu'au Festival Cinéma et Poésie de Porto Vecchio. Et j'aimerais parler aussi de votre tout dernier film, qui est en fait un long métrage, le premier celui-là, qui s'appelle La Pomme Chinoise, et qui sera projeté en avant-première mondiale au FID de Marseille. Alors, votre travail cinématographique est produit par l'association Altra Voce, et je précise que Altra, ça s'écrit avec le R entre parenthèses, Alta Voce, Altra Voce. Il y aurait des choses à dire là-dessus. Philippe Langlois, quant à vous, vous êtes docteur en musicologie, chercheur permanent à l'IREMUS au sein de l'Observatoire musical français, rattaché à la Sorbonne, et depuis 2017, vous dirigez le département pédagogie et action culturelle à l'IRCAM. Vous avez coordonné de 2002 à 2011 l'atelier de création radiophonique de France Culture aux côtés de Frank Smith, avec lequel vous co-dirigez exactement la collection Zag Zig, qui est une collection particulière, unique en son genre, entre livres d'artistes et livres musicaux, des livres CD. En réalité, on pourra en parler davantage. Et vous êtes l'auteur notamment de l'ouvrage Les cloches d'Atlantis, musique électroacoustique et cinéma, archéologie et histoire d'un art sonore, qui est paru en 2012. Alors, ce livre est une, je vous le disais tout à l'heure, en forme de taquinerie, mais je le pense, une encyclopédie de la musique cinématographique depuis 1928 à peu près, date de l'apparition au cinéma des premières expériences électroacoustiques. Il est accompagné d'un site internet, Les cloches d'Atlantis, qui est absolument incroyable, fourmillant, un site que l'on aimerait visiter pour travailler et se préparer, et en fait dans lequel on se perd, tellement il est riche, dans lequel vous inventez un musée du son, avec son hall d'accueil, ses deux rez-de-chaussée, ses trois étages, ses terrasses, ses parcs et jardins, et même un espace de silence. Un site donc qui, comme l'enquête que vous déployez dans le livre, est une forme d'archéologie en soi et une archéologie heureuse et joyeuse. Vous composez aussi, par ailleurs, des bandes sonores pour des films, on y reviendra bien sûr. Beaucoup de monde, l'avais-je dit, Stéphane Lambert. Donc, vous êtes poète, romancier, essayiste, vous avez même été professeur, vous avez enseigné à l'Université de Prague la littérature belge, et depuis quelques années en particulier, vos écrits, qu'ils soient narratifs ou poétiques, sont consacrés à des rencontres, je le disais déjà, ce terme bien sûr n'est pas anodin en vous concernant, entre différentes pratiques artistiques, différents artistes. Vous avez écrit sur Nicolas de Staël, sur Marc Rothko, sur Monet, bien sûr, sur Friedrich et son lien à Beckett. On voit là la rencontre entre différentes pratiques et différentes œuvres. Et vos derniers textes poétiques également, notamment Chapelle du Rien en 2014, mais surtout les Art Poems, et un texte à venir, à l'automne, Écriture première, sont consacrés à ces rencontres entre art et poésie, justement. Vous avez été cette année en résidence à la librairie Traversée, et vous avez organisé, comme par hasard, des rencontres entre écrivains et artistes, justement dans ce cadre-là. Et vous avez également, quel malheur, un site internet incroyablement riche, sur lequel aussi on peut se perdre, et je vous y invite vivement, sur lequel vous proposez non pas un musée de l'art, mais une nécropole. Et ça, c'est Jean-Max Collard qui dit que finalement, peut-être, il n'y a pas grande différence entre une exposition et un funérarium dans l'exposition de ses rêves. Une nécropole, donc, où se côtoient différents artistes, mais également une galerie artistique personnelle, dans laquelle les œuvres sont sélectionnées par affinité. Et pour chaque œuvre, quelques mots viennent dire, sous une forme ou une autre, ce que vous y voyez, forme d'autoportrait éclaté du coup. Et enfin, Jean-Max Collard, vous êtes critique d'art, vous êtes commissaire d'exposition, vous êtes également maître de conférences habilité en littérature française contemporaine à Lille, et vous êtes, et ce titre en lui-même est incroyable, chef de service de la parole au Centre Pompidou. Vous avez curaté différentes expositions et comme le montre celle-ci, alors par exemple Book Machine chez Céline qui est une forme de happening sur la bibliothèque presque plus que sur le livre, Journal d'une chambre à la Galerie Crève-Cœur ou encore Durasong au Centre Pompidou en 2014, montre donc une ouverture très forte à ces différentes pratiques, la question du lien entre la critique d'art, la poésie, qu'est-ce qu'écrire, qu'est-ce que voir, qu'est-ce qu'écrire ce que l'on voit, rêver parfois ce que l'on voit, puis l'écrire ensuite, ça c'est dans ce livre, l'exposition de mes rêves, justement dont je parlais tout à l'heure. Et vous avez également créé au Centre Pompidou le festival Extra, qui nous intéresse à plus d'un égard, parce que c'est un festival qui se consacre aux formes exposées de la littérature ou aux formes de la littérature exposée, performances, réalisations scéniques, sous de très nombreuses formes, et qui pose la question en réalité de ce que l'on fait de ce médium, ce qu'il devient aujourd'hui, ce en quoi il peut s'incarner, ce qui y demeure, ce qui y change, ce qui y circule toujours. Et cette ouverture-là, on la retrouve dans la définition que vous proposez de votre activité de critique. Vous parlez de la critique, peut-être une critique idéale, comme d'un laboratoire de doute. Et vous parlez du rêve comme d'une forme de critique et du rêve comme espace d'un savoir. Et cela, justement, permet la rencontre. Alors voilà, j'en viens enfin, quel soulagement pour nous tous, à ma première question. J'aimerais vous interroger, tenez-vous bien, la question est large, sur justement cet espace-là de la rencontre. Quel est le rapport particulier, s'il y en a un, pour chacun d'entre vous, dans les gestes et pratiques que vous déployez, entre la poésie et la musique, ou bien le cinéma, ou bien la poésie sonore, puisque vous parlez de cela, Philippe Langlois, ou bien le film-poème, ou bien la littérature que l'on expose au sens muséal du terme, entre la peinture et la poésie. Rapport différent, rapport contigu, poreux, ou bien clairement hétérogène, comment l'envisagez-vous? Et à vous de vous débrouiller sur l'ordre de réponse.
Bon, alors me voilà avec la lourde charge de commencer à répondre à cette question, par laquelle je ne sais d'ailleurs pas comment la prendre, parce que la relation entre la poésie avec au contact d'autres arts ou d'autres moyens d'expression, tels que la radio ou la voix, la parole, où l'image ou la musique prend des formes tellement multiples, peut prendre des formes tellement multiples, qu'à chaque fois aussi, il s'agit peut-être de réinventer aussi la relation qui va se tisser entre le texte et les différents médiums qui vont être à son contact, inventer un dialogue, une manière qu'ils vont avoir de se côtoyer, de se frotter, de se cogner ou de fusionner ensemble. Voilà. Donc, je vais juste commencer en ouvrant cette petite chose
et
ne répondant absolument pas à votre question. Pour le coup.
Les trois autres vont s'en charger.
Bonjour. J'ai toujours été intéressé par la question de la relation que la littérature peut entretenir avec son dehors. Et au fond, ça induit un rapport de rencontre, on va dire, dès qu'on s'aventure un peu. Et moi, quand je dis que ça m'a toujours intéressé, c'est qu'en effet, j'étais maître de conférence à l'Université de Lille et j'avais fait ma thèse sur la poésie de la Renaissance. Et c'était une thèse sur la question de qu'est-ce qui arrive à la poésie quand elle avance sur le terrain du social, qu'est-ce qui arrive notamment à la poésie de cour, quand elle sert à accompagner une offrande, un poème pour deux gants qu'on va donner à une demoiselle. Enfin, qu'est-ce qui se passe quand la littérature sort de son champ? Qu'est-ce qui se passe quand elle va, je dirais, un peu en dehors d'elle-même? Et ce qui m'intéresse, évidemment, encore aujourd'hui, dans un autre périmètre, c'est-à-dire quand j'organise le festival Extra au Centre Pompidou, et s'il a ce nom d'Extra, c'est parce que moi, je veux évidemment fêter, en quelque sorte, la situation actuelle de la littérature. Certains se désolent de la littérature, de sa situation. Et moi, je pense qu'on peut fêter une vitalité littéraire qui est pluriformelle. Et du coup, mais Extra, c'est évidemment aussi une sortie de la littérature hors d'elle-même, une rencontre aussi d'autres arts. Et donc, au fond, c'est ce que vous disiez, c'est cette porosité, c'est cet effacement des frontières. C'est qu'est-ce qui se passe quand les éléments se rencontrent, justement, quand ils essayent d'échanger, quand la littérature essaye d'être peinture, quand on essaye d'échanger des caractéristiques, c'est-à-dire de sortir aussi de soi, en quelque sorte. Et donc, en même temps, c'est toujours aussi l'occasion de se redéfinir. Donc, sortir de soi, c'est quand même aussi toujours s'interroger sur soi-même. Donc il y a ce double mouvement pour moi de l'extériorité en quelque sorte. C'est toujours aussi un grand moment d'interrogation de chaque art sur lui-même quand il va aux rencontres, je dirais, d'un autre que lui.
Donc vitalité plutôt que dispersion et réflexivité plutôt que narcissisme sur soi.
Oui, et sortie.
Et sortie. Stéphane.
Moi, c'est plutôt vraiment l'expérience même de l'écriture qui a fait que la poésie s'est rapprochée de mon attrait assez fondamental de la peinture et des arts plastiques, de la création en général, dont j'envie la force d'expression sans en passer par le langage, par l'intelligibilité. Sa capacité d'ouvrir les sens, d'ouvrir le disciple, d'ouvrir les possibles, de dire sans dire. Et comme vous l'avez dit dans votre introduction, j'ai écrit un certain nombre de livres en prose sur des artistes. Et ce qui m'intéresse, c'est essayer de me rapprocher de ce cœur de la création, de ce rythme, de cette essence, de ce mouvement premier de la création. Et même dans mes livres en prose, finalement, par exemple, je peux citer celui sur Rothko ou celui sur Nicolas de Staël, il arrive à plusieurs reprises que, faute de pouvoir l'approcher suffisamment par le biais intelligible, tout à coup, la poésie surgisse d'elle-même, elle s'est imposée. Par sa forme pour effleurer peut-être le plus indicible, le plus insondable de ce que l'art parvient à exprimer. Et donc, en fait, à force, je me suis de plus en plus rapproché d'un langage poétique, radicalisé dans sa forme, au point d'imaginer que peut-être je faisais une forme de création plastique à travers la poésie, ou en tout cas que écrire de la poésie pour un écrivain, c'était sa manière de faire de l'art.
Donc il y aurait une forme d'indécidabilité, de l'élan créateur, peu importe le geste qu'il adopte ensuite, mais pour l'approcher au plus juste, il faudrait sortir des mots et de l'écran qu'il parfois nous oppose.
D'une certaine manière, oui, il y a, en tout cas, elle est poussée dans des... là, on parlait de sortir du cadre, de pousser hors du cadre où on les entend ordinairement.
Oui, non, ça marche. C'est une question qui est effectivement extrême.
Ça va marcher.
Merci de me rassurer. Là.
Non, vos micros ne marchent plus.
Non, c'est c'est vrai?
Ah non. Oui, très proche.
Là, vous m'entendez, là? Ah, ben oui. Ah oui, c'était ma voix, alors c'était pas... Merci beaucoup. Hein. Non. C'est une question très large, mais il me paraît en tout cas tout à fait pertinent de l'aborder sur cette question de la rencontre, parce que je pense que la poésie est elle-même une articulation du dedans et du dehors, c'est-à-dire elle est déjà... Enfin, alors, on passerait beaucoup de temps à essayer de définir, évidemment, ce qu'est la poésie, et nous ne le ferons pas.
Mais non, surtout pas.
Il y a cette part absolument indéfinie, mais elle travaille sur cette indéfinie. Elle travaille aussi sur cette traversée et sur, il me semble, un endroit de déprise du sens où elle est aussi parfois, tout en s'inscrivant dans la littérature, à contre-littérature. C'est-à-dire, il y a... Et ce qui, me frappe, c'est que, en tout cas pour moi, c'est le même processus. C'est-à-dire qu'être... Vous m'entendez, là? Tout va bien. C'est que c'est le même processus, c'est-à-dire qu'il y a un travail du cinéma, en tout cas du cinéma de poésie, hein, pour citer par exemple Pasolini, qui est un travail à la fois à contre-histoire et donc à contre-image dans le sens du cliché, et qui est un travail aussi justement qui est contre-littéraire et contre-cinéma, mais pour faire sortir l'essence même du cinéma, c'est-à-dire trouver les ressources propres. Moi, je ne serais pas pour qu'on détache la poésie du langage, parce que je pense que ce travail sur les mots et sur la matière de la langue, pour autant, on ne va pas se priver de toutes les surprises et les ruses du sens, hein, mais à condition effectivement de faire son travail aussi de déjouement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce pas de côté, mais je pense que pour ce qui est de l'endroit où moi je cherche l'endroit de mon propre travail dans le cinéma, tout en étant poète et écrivain, je dirais que la même infinie liberté traverse ces deux pratiques.
Alors ça, c'est vraiment très beau. Cette question de l'infinie liberté, ça me... Pour moi, ça résonne immédiatement avec ce que vous disiez du sens, de la forme de cette question-là. Quelle est cette forme qu'on peut chercher de ce que Jean-Max expliquait sur la question de l'extra, ce qu'on ajoute. Et ça me fait penser à cette anecdote qui m'a beaucoup amusée, qu'on trouve au début, plutôt au milieu en fait, de votre film, Trivial Poème. Donc, Trivial Poème est un film qui a été tourné à Beyrouth, qui est achevé depuis 2017, paru en 2017. Et alors... Vous racontez votre rencontre, Florence Pasotu, avec William Cliff, qui est poète. Alors, je me permets de lire un petit peu ce qui apparaît à l'écran, parce que c'est une plaisanterie que vous tendez, en fait, à vos spectateurs. Et ça se déroule comme suit. Ce n'est qu'en mai 2015 que je découvrais Beyrouth. William Cliff, lui, mais je l'ignorais, venait tout juste d'obtenir le prix Goncourt de poésie. Comme il m'interrogeait sur mes activités, s'étonnait des fulgurances maladroites de ma petite caméra, nous marchions dans Amra, avions perdu le groupe, j'hésitais, puis risquais une conversation autour de l'écriture. Mouvement, dis-je, articulation du dehors et du dedans. Je marque les pauses parce que vous le présentez de manière poétique. Forme et pensée, concept et trivialité assumés, forgés ensemble en un seul souffle. Quelle ineptie, trancha-t-il. Il n'y a pas de poésie hors du vers, ni de poème sans forme fixe. Fin de l'anecdote, minute 13. Et puis l'épilogue à la fin. William Cliff a publié de nombreux livres, pour l'essentiel chez Gallimard, et obtenu plusieurs prix prestigieux. Son vers de prédilection serait un vers de 14 syllabes, mais il utilise aussi le décasyllabe. Alors, rassurons tout le monde, les remerciements du film à la fin saluent le sens de l'humour de William Cliff, donc ce n'est pas une descente en règle.
Non. Non, ça, je voudrais vraiment pas qu'on le croie. D'ailleurs, j'ai rédigé une partie du générique en décasyllabes Non, c'est un vrai malentendu fertile, hein, une vraie discussion. Je dis malentendu parce que la discussion était un peu difficile, parce que je me suis butée, effectivement. William Cleave voulait discuter de tout sauf de poésie, ce que je peux comprendre, mais donc on n'a pas pu, étant donné qu'il renvoyait dans la non-poésie tout ce qui n'était pas... C'était... Mais en même temps, c'est un espace de discussion qui pourrait être extraordinairement fertile, parce qu'effectivement, cette question de rabattre la poésie sur le vers ou sur la forme fixe, est une question qui traverse l'histoire des formes depuis toujours. Enfin,
bien sûr.
Et d'ailleurs, moi, je m'intéresse beaucoup, c'est pour ça que je l'ai appelé Trivial Poème, à ce qu'on appelle prose, parce qu'on voit bien que si on lit, par exemple, des propos, même de cinéastes, hein, sur la prose, etc., et la distinction prose et poésie, on voit bien que cette ligne, elle a beaucoup bougé aussi aujourd'hui. Moi, j'utilise le mot trivial parce que ça me permettait de faire cette alliance, justement, du plus petit, du plus quelconque, parce que le grand geste poétique, quand même, par exemple, du cinéma de poésie, je trouve, il est politique. Or, on peut trouver ça aussi en poésie. C'est-à-dire que, du coup, ce geste-là de remise en question ou de traverser des formes, c'est aussi un geste politique. Quand Vertov fait rentrer l'homme quelconque, par exemple, dans le plan, ou comme... Mais bon, je ne vais pas, moi, faire des théories du cinéma, je ne suis pas du tout... excusez-moi. Donc je...
Mais, par contre, vous faites du cinéma politique. Et ça, c'était quelque chose... c'est quelque chose qui traverse... Du coup, je saute de la forme politique, vous m'y forcez, Florence. Mais allons-y. La question, justement, de ce travail sur la forme, de cette sortie d'un médium qui peut être parfois cadré, c'est le mot qu'employaient Jean-Max et Stéphane, traverse l'ensemble de vos écrits, de vos expositions. Il y a vraiment... Alors, pour prendre quelques exemples, Philippe, vous avez composé la musique du film de Frank Smith qui s'appelle Le film des visages. Peut-être que vous pouvez nous en parler un petit peu, qui est très particulier comme film, où il est question de filmer peut-être... au plus juste, ce qu'est le printemps arabe.
Oui, bon, Frank Smith travaille à partir du document. C'est quelque chose qui est assez prégnant dans son approche de la poésie. Notre première collaboration s'était fait sur le film des questions qui reposait sur les interrogatoires faits par notamment l'armée américaine et les renseignements en Afghanistan auprès des talibans. Et on avait fait un premier film. Et notre collaboration, en fait, a débuté sur le film des questions aussi, qui partait d'un fait divers en Alabama, l'assassinat en masse par un fou furieux, quelqu'un qui perd la raison. Voilà. Et alors, quand on a abordé le film des visages, c'était cette deuxième collaboration. Et effectivement, Franck est parti d'un documentaire, petit documentaire de 3 minutes, en fait, qui... raconte la manifestation qui a suivi le décès de Khaled Saïd, qui a été initiateur en fait du printemps égyptien. Il a été assassiné par la police égyptienne. Et cette manifestation, voilà. Donc on y voit des visages, et c'est la question du face à face, le face à face entre les manifestants et la police. C'est le face à face aussi entre les visages qui sont sur l'écran et ceux du spectateur. C'est aussi un face à face entre le poète et ce dont il parle, puisqu'il cherche le film. Le principe de ce film est un zoom avant qui cherche à se rapprocher le plus possible du visage. Alors l'approche musicale, évidemment, quand un film arrive comme ça, il n'est pas encore... Moi, j'aime bien travailler avec un cinéaste avant même que la matière existe, ou lorsqu'elle est en train de se faire, qu'une réflexion se noue d'une manière commune. Et on échange ensuite, et je jouis d'une très grande liberté, en fait. Et il ne s'agit pas que la musique dise la même chose que le texte, que l'image, c'est qu'elle apporte quelque chose qui soit de l'ordre du sensible ou de l'ordre du contrepoint. Et donc sur ce film, évidemment que... Alors il y a plusieurs éléments qui composent la musique elle-même. Il y a évidemment un travail sur la poésie avec la présence de Sappho, qui va lire plusieurs textes d'elle-même, la poésie aussi d'Ibrahim Nagy, qui a inspiré notamment Om Kalsoum pour son célèbre musique « Al-Atlal », les ruines. Et donc il y a cette matière-là en plus du texte de Frank Smith. Et autour, moi j'ai travaillé surtout sur la question de l'étirement, parce que ce documentaire sur lequel on s'approche, évidemment, ce sont des cris de manifestation, on est au plein cœur d'une manifestation. J'ai voulu l'étirer sur toute la longueur du zoom, faire un étirement temporel de cette matière, Ce qui fait que s'écrit d'un seul coup prenait une autre matière, une autre temporalité, une autre... Et puis créer également une distance entre le temps de cette manifestation, le temps du printemps arabe, et la distance que nous, on la reçoit avec l'image. Parce qu'évidemment, le film interroge aussi cette question de l'image dont on est témoin. Et donc, il y a cette matière-là qui fait qu'on se rapproche petit à petit dans ce travail de l'étirement temporel. Il y a tout un travail de synthèse également qui a été fait pour créer justement une espèce de no man's land, une espèce de monde irréel, qui permet aussi de tendre le son et de laisser aussi la place au texte. Parce que ça, c'est très important aussi. Moi, je vois un film arriver comme ça, l'image est forte, le texte est très fort. Qu'est-ce que je vais venir faire et voilà. Donc, il faut y aller avec beaucoup de précautions et trouver un équilibre pour que ça puisse fonctionner. Et puis, il y avait un autre élément aussi qui a servi ce film, qui était le rapport aussi entre la musique traditionnelle égyptienne ou arabo-andalouse, et la musique occidentale. Et donc j'ai essayé de faire ce croisement, finalement, dans une espèce d'instrument de musique qui n'existe pas, entre le oud et le piano, une espèce de pianoud, on pourrait presque dire. C'est-à-dire qu'en réalité, la pédale de sustain était totalement enfoncée pour laisser les résonances le plus longtemps durer. Et en même temps, j'étouffais les cordes du piano à l'intérieur avec des feutres, des feutrines. Ce qui fait qu'il y avait une espèce de double effet. D'un côté, le son ne pouvait pas résonner parce qu'il était empêché par les feutres, et de l'autre côté, cette résonance était amplifiée. Et dans cette relation, finalement, tissée entre ces éléments, c'était aussi un rapport de distance entre la manière que nous, on a, occidentaux, de voir cette révolution arabe, de nous l'approprier d'une certaine manière avec notre propre pensée occidentale, de passer aussi à côté de certaines choses. Voilà, donc la musique du film essaye de se frayer un chemin, finalement, entre ces éléments-là. Et je pense qu'effectivement, quand on est devant, il se passe quelque chose, parce que il ne s'agit pas de souligner ou de surligner, au contraire, mais d'apporter un autre type de relation entre l'image, le son et le texte.
Et vraiment d'entendre à la fois l'image, le texte et le son comme matière, des matières qu'on travaille, des matières où l'on fait se croiser de la pensée. Vous parliez de la vision occidentale sur un certain Orient, sur l'Égypte, sur la musique orientale, sur ce qu'on en connaît. Comment on travaille la musique à partir d'un instrument occidental pour que la musique devienne elle-même croisement. Trivial, poème, trivial, ça veut dire le croisement entre différentes routes. Et il y a vraiment de cela aussi dans cette idée traversière. Mon esprit saute d'un exemple et d'une lecture à l'autre, pardon si parfois je m'ébouillonne moi-même. Mais vraiment, alors revenons-en un peu de manière plus posée. Florence Pazotout, dans cette question de la matière, de comment l'image, mais aussi le son et le croisement deviennent matériels, c'est cela, il me semble que vous travaillez énormément, non seulement dans Trivial Poème qui se passe à Beyrouth, mais aussi dans ce film frappant qui s'appelle La place du sujet, où vous interrogez la rénovation du quartier du Panier à Marseille, en vous posant la question, voilà, le quartier du Panier, qui est un quartier populaire, un quartier extrêmement connu, même pour ceux qui n'y ont jamais mis les pieds, et qui pourtant n'est pas un quartier qui a une existence administrative. Vous vous en rendez compte en allant visiter les archives régionales, je crois. Pas d'existence réelle donc, mais une existence tangible. Et si on le rénove, qui peut encore y vivre? Qu'est-ce que cela veut dire? Et comment, dans un film, donner à sentir l'épaisseur de vie qui est là, qui est celle de cet endroit, ces croisements?
Là, ça serait aussi une très vaste question, parce que c'est la question du rapport réel, en fait, hein, du rapport réel et du rapport documentaire. Moi, ce qui m'intéresse justement dans la poésie, c'est comment est-ce qu'elle peut en même temps faire ce travail sur le réel et être en même temps un décollement, c'est-à-dire une reconstruction aussi d'une réalité possible, et donc ne pas rester simplement ne pas être acculé à être dans une situation de constat ou d'énonciation, mais permettre des traversées. Alors, la place du sujet, c'était ni mes images ni mon montage, donc c'est un travail un peu particulier, mais comme dans Trivial Poème, effectivement, je noue la question du politique et du poétique, alors d'une manière complètement différente, puisque dans La place du sujet, il y a le philosophe Alain Badiou, il y a un poète Woolwinson, donc il y a aussi ce tissage comme ça d'une parole poétique, et puis il y a aussi par exemple un homme à la fenêtre qui explique que lui est son papier, enfin, donc c'est comment tisser ces matières qui sont des matières brutes et en même temps par le déplacement de la forme, mais avec peut-être, oui, enfin, je dirais là où le travail est poétique, c'est dans le sens où il donne à voir, c'est-à-dire au lieu qu'on soit pris dans une évidence narrative ou dans une illusion documentaire, il donne à voir les points de montage d'une certaine façon. Exactement. C'est-à-dire il donne à voir ce travail-là, enfin, ce qui généralement n'est pas montré, est montré, fait partie du processus créatif. Donc je pourrais dire que c'est là où peut-être le travail de montage en poésie et le travail cinéma tel que je le pratique moi, avec des matériaux très pauvres et avec des conditions qui sont en particulier mon grand, mais nous en parlerons parce que moi j'adorais vraiment parler de son parce que c'est ma souffrance quand je travaille, c'est-à-dire que c'est une chose, je travaille avec une toute petite caméra qui est une petite caméra Panasonic TM900 qui a cette grâce qui est qu'elle peut se faire oublier et donc je peux vraiment être dans le geste, hein, même si je suis aussi dans une sorte de mise en relation dans la rencontre qui fait que jamais je ne vole d'image de quelqu'un. Ça, c'est vraiment à Beyrouth. Je n'ai pas filmé ni les réfugiés syriens dans la rue. Je ne suis pas journaliste.
Et
je
pourtant,
n'ai pas
vous
non
passez
plus.
Le long des camps.
Voilà. Et il y a tout un contexte souterrain du film avec lequel j'ai travaillé sans jamais le montrer. Par exemple, je montre la défiguration, transformation de Beyrouth comme point incandescent, où on peut voir toutes les politiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui, de division, de désappropriation de l'espace public, enfin hein, donc d'appropriation par les capitaux privés de tout ce qui faisait espace commun, et c'est pour ça que mon travail sur la langue m'intéressait. Mais je ne montre pas non plus, par exemple, les femmes des Émirats arabes qui se font refaire le nez et que je croisais au petit déjeuner avec un sparadrap, voilà. Et donc cette espèce de réalité avec ce grand écart, ça soutient le film, mais je ne le montre pas. Hein. Voilà, ça c'est une chose que je tiens à dire parce qu'on peut être dans une espèce de légèreté de la caméra sans pour autant être dans du micro-trottoir. Voilà. Mais par contre, le son c'est terrible. Le son c'est terrible parce que il faut c'est un travail fou quoi. On peut prendre des images pauvres et les monter, faire un travail de montage pendant 2 ans comme je l'ai fait et arriver à. Mais par contre. Je me suis juré que la prochaine fois, je travaille ou avec un Perchman ou avec un micro, parce que je vous assure, là, je travaille avec un mixeur qui est extraordinaire et qui fait du sauvetage de son. Mais on ne peut pas imaginer ce que c'est la reconstruction du son quand vraiment vous êtes...
Et le son a une importance immense dans vos films. On entend les grognements d'une bête, on entend le passage des voitures, des camions sur une autoroute, on entend le claquement des talons d'une femme la nuit. Quand elle s'approche d'une maison éclairée de l'intérieur, il y a quelque chose de très menaçant. On entend les voix autres autour, on entend différentes voix, on entend des poètes qui lisent dans d'autres voix, notamment en coréen. Et il y a là une force dans la rugosité de ce matériel, justement.
Oui, parce que le cinéma, c'est aussi du son, quand même. Alors, effectivement, j'ai essayé de faire le mieux avec des matériaux qui étaient pauvres et qui étaient bruts, mais j'essaye de les retravailler beaucoup, comme je le peux, oui, avec ce mixeur. Oui.
Et alors, Jean-Max, chez vous, la présence du réel m'a frappée dans ce livre qui est en lui-même frappant par sa forme, cette exposition de vos rêves, où l'on plonge dans une intimité dévoilée, celle de l'inconscient qui se donnerait à voir, quoique vous regrettiez manquer terriblement d'imagination et que vos rêves, somme toute, sont des rêves de curateurs d'exposition où vous voudriez qu'il y ait des choses beaucoup plus trash, beaucoup plus violentes, et en fait, non, il n'y en a pas. Par contre, ce qu'il y a, c'est parfois des scènes presque des fantasmes là qui se livrent. Et il y a notamment ce rêve qui met en scène l'artiste Cyprien Gaillard, où vous êtes sur des toits de Paris et autour de cette présence artistique se déploie une espèce de fête quasiment carnavalesque où on mène une révolte qui prend de l'ampleur et puis Cyprien Gaillard commence à lancer des allumettes et ça fait exploser des voitures au loin et les feux se lèvent, vous êtes arrêté par un policier et vous parlez de la provocation intense de ce vandalisme artiste, vous parlez de votre désir d'émeute et il y a là quelque chose d'assez fort et d'assez contrastant je crois avec ce qu'on vient d'entendre sur ce que ce serait que de s'insurger en art. En art plastique.
Là aussi vaste question qui me met en charge de la dimension comme ça politique ou émeutière de la poésie.
C'est beau, c'est la dimension émeutière de la poésie.
Sachant que je ne suis pas moi-même poète, mais bon, l'exposition de mes rêves, c'était un projet finalement très personnel puisque moi, je ne suis pas écrivain. Je suis effectivement critique. Ou alors, si je le suis, c'est en tant que critique d'art, mais donc je ne le revendique pas en tant que tel. Et en revanche, je pratique beaucoup l'exposition. Je la pratique parce que, étant critique d'art, j'en vois beaucoup. J'écris sur beaucoup d'expositions. Et étant commissaire d'exposition, j'en prépare aussi. J'en réalise certaines. Et donc, l'exposition est un objet qui m'occupe beaucoup. C'est un lieu de rencontre aussi, où on assemble des œuvres entre elles, etc. Et en fait, vers les années 2005, c'est vrai que j'ai commencé à remarquer que je faisais souvent des rêves d'exposition. Et je me suis dit que... Donc j'ai commencé à les noter comme une sorte de petite collection d'expositions personnelles. Donc effectivement, c'est des rêves d'espace, c'est des rêves de musée, ou des rêves aussi parfois d'espace un peu vide où il n'y a pas grand-chose, sinon une œuvre par-ci, par-là. Et je me suis rendu compte que ça devenait un espèce d'espace d'écriture personnel qui se frayait un chemin justement presque en moi et qui est aussi du fait que moi j'étais critique d'art aux Inrecuptibles, maintenant je travaille au Centre Pompidou donc je suis plus aux Inrocs, j'ai fondé la page art des Inrocs il y a 20 ans, mais donc du coup j'écrivais toutes les semaines sur des expositions qui venaient parce que l'actualité me les offrait alors que les rêves au fond étaient imprescriptibles quoi. Je pouvais ne pas rêver pendant un mois d'exposition puis soudainement je rêvais trois fois de suite d'exposition qui n'avait rien à voir avec ce que j'étais en train de regarder par ailleurs. Mais au-delà de ça, je me suis rendu compte qu'au fond, l'exposition était pour moi un médium. Et ça, c'est une chose très importante. C'est-à-dire qu'on connaît les relations entre cinéma justement et rêve. Et que notre rêve, on ne sait plus si c'est le cinéma qui a formaté le rêve ou qui a participé, je dirais, au rêve, ou si c'est le rêve lui-même qui est cinématographique. Moi, je m'intéresse parfois d'ailleurs à savoir comment on rêve avant le cinéma, comment on rêvait. J'essaye de relire parfois des textes de rêve du XVIIe siècle pour voir si on rêvait en tableau ou on rêvait en théâtre, pour voir si, voilà, comment les arts, en quelque sorte, participent, je dirais, à la construction formelle de nos rêves. Et moi, je me suis rendu compte que mon médium onirique, ça n'était plus le cinéma, c'était une forme un peu dérivée du cinéma qui est l'exposition, parce que dans l'exposition, on se promène et donc on fait soi-même le travelling dans l'espace. Et donc, je me suis rendu compte que oui, c'est, au fond, c'est mon espace mental, c'est ça qui m'intéresse.
Et causa mentale.
Et voilà, évidemment, c'est une chose mentale. Et si on le rattache à ces questions de poésie, c'est aussi pour dire que si aujourd'hui, je me retrouve à faire extra et avoir créé le prix littéraire du Centre Pompidou, mais qui est un prix littéraire que je veux justement dans une littérature qui va vers l'art plastique et qui ne se cantonne pas spécifiquement à historiquement la poésie sonore. Je dirais que le Centre Pompidou a été un haut lieu de la poésie sonore. Et moi, j'envisage plus, évidemment, une littérature qui peut aller sur les murs, qui peut aller sur les espaces, qui peut prendre les espaces. Moi, j'aime bien, effectivement, cette idée d'une littérature exposée, parce que je crois qu'elle rejoint aussi des conditions contemporaines de la littérature. C'est-à-dire que, comme on le voit ici avec nos auteurs, eh bien, voilà, il y a une condition exposée de l'écrivain aujourd'hui, qui fait qu'il est sans cesse sollicité aussi par-delà son écriture, par-delà ses publications, pour aller sur des scènes, pour aller dans des écrans, pour aller dans quantité d'endroits, pour aller entretenir une relation avec le public. Et il me semble qu'aujourd'hui, on assiste effectivement à une nouvelle configuration de la vie littéraire. Et c'est vrai que moi, j'envisage le Festival Extra. Je peux me permettre de l'annoncer. La troisième édition du festival aura lieu du 11 au 15 septembre au Centre Pompidou. Mais je l'envisage comme un festival de la vie littéraire aujourd'hui. C'est-à-dire avec des moments de rencontre, des œuvres sur les murs, des films-textes dans des salles de cinéma, de l'écriture, de la littérature numérique, de la littérature sur scène, des écritures urbaines. Enfin, il me semble que c'est tout ça qui fait aujourd'hui la vie littéraire. Voilà. Et la vitalité de la littérature.
Rien que ça. Mais alors... Je rebondis sur cette question d'espace, parce que c'est vraiment ça. On a parlé un peu du temps et on y reviendra, j'espère. Mais tout de même, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup dans ce qu'on voit, entend ou lit de vous. Chez vous, Stéphane, aussi, de cette manière, vous disiez, la poésie, peut-être, c'est ma manière à moi d'être plasticien. Vous disiez que parfois, écrire de la poésie, c'est peut-être ça, agir sur la forme au sens vraiment de cette matière-là et occuper l'espace. Et justement, dans les art poems, alors déjà, il faudrait que je vous pose la question du titre... et de l'anglais dans ce titre. Est-ce que c'est une question de rencontre, de croisement? Est-ce que c'est quelque chose qui est plus immédiatement concret? Parce que quand on parle dans une langue étrangère, parfois, on entend les mots résonner d'une autre manière, on entend d'autres sens, peut-être plus littéraux. En tout cas, pour moi, c'est l'expérience que j'ai. Mais alors, Stéphane, dans ce recueil-là, vous travaillez sur le côté peut-être mimétique, parfois un mot, une manière de décrire quelque chose, et presque à la manière d'un calligramme, la manière de décomposer le mot. Vous avez ça sur l'une de vos pages, la manière de mettre en scène et en espace la poésie.
Ben oui, mais j'aime bien cette idée qui vient d'être expliquée là de littérature exposée dans le cycle dont vous parliez que j'ai organisé cette saison à la librairie Les Traversées. On faisait dialoguer des écrivains et des artistes sur effectivement cette communication entre l'écriture et l'art, comment écrire l'art et comment l'art utilise l'écriture. On a eu notamment un plasticien qui s'appelle Jean-Christophe Normand, que vous connaissez sans doute, et qui déploie des textes dans l'espace public, et notamment une de ses démarches est d'écrire aux quatre coins du monde l'entièreté du texte d'Ulysse de Joyce. Sous forme d'une ligne qu'il écrit sur les trottoirs ou autres, hein, parce qu'il n'y a pas de trottoir dans toutes les villes du monde. Et en fait, il disait que finalement, cette ligne, elle correspond plus à la forme de la pensée que la typographie graphique des livres, enfin, des romans. On ne pense pas en forme de page, en fait. Et d'une certaine manière, à travers ces formes dont vous parlez, cette spatialité du mot, j'essaie peut-être de le faire correspondre à effectivement la sensation d'immédiateté du ressenti que j'ai voulu communiquer, transmettre à travers mon texte. Mais j'avais déjà fait ça, maintenant que vous en parliez dans un roman qui s'appelait Les couleurs de la nuit, qui date de 2009 ou 2010, je ne sais plus, qui était un roman où mon narrateur partait justement en quête d'un peintre, Bernardo Dadi, un peintre du XIVe siècle, élève de Giotto, et qui est connu comme étant l'inventeur, entre guillemets, des retables portatifs. Donc à une époque où la peste, la grande peste, il y avait beaucoup de gens qui devaient partir, tout ça, et donc les familles avaient ces retables qu'ils pouvaient prendre avec elles. Et je voulais que mon livre ait aussi cette forme-là d'un retable portatif, et donc en triptyque. Et donc j'avais fait trois chapitres, et chaque chapitre était un bloc de texte, comme chaque bloc du triptyque. Donc c'est vrai que l'aspect extérieur du texte dit déjà beaucoup, en fait, sur ce qu'il communique. Et c'est pour ça que moi j'insiste sur la dimension formelle de la poésie. J'entends bien qu'il y a évidemment une dimension plus... indéfinissable de la poésie qu'on peut retrouver dans toutes les formes d'expression, dans le roman et autres. Mais d'un point de vue formel, il y a une spécificité de la poésie à vouloir effectivement trouver par la composition spatiale, par la place des mots, la manière de les restreindre, de les étendre, de les couper, de dire quelque chose à travers eux, mais par-delà leur sens, mais en rappelant aussi leur sens, ou en l'étendant, ou en le déplaçant, en jouant en tout cas sur leur sens.
Un peu comme l'étirement dont parlait Philippe tout à l'heure. Jean-Max, vous avez levé la main.
Oui, parce qu'au fond, moi j'entends bien que aussi le livre est aussi un espace d'exposition, évidemment, mais... ce qui m'importe aussi de rappeler à propos de ces questions de littérature exposée, et ça me revient en entendant Stéphane, c'est que moi je voulais aussi insister sur l'extraordinaire, quand je dis extraordinaire, c'est vraiment vrai, c'est l'extraordinaire visibilité de la poésie aujourd'hui dans le champ de l'art contemporain. Oui. C'est-à-dire que la poésie, aujourd'hui, on est dans le marché de la poésie qui est un moment vraiment magnifique, qui permet de montrer une vitalité réelle du monde poétique. Mais dans le même temps, la réalité plus ordinaire, je dirais, de la poésie dans le monde éditorial, par exemple français, c'est qu'effectivement, elle existe assez faiblement en termes de représentation, en termes de poids économique, etc.
Et c'est pour ça que le marché a tellement de succès,
Mais à l'inverse, je dirais, À l'inverse, la poésie, c'est vrai, et tout le monde ne le sait pas forcément ici, est très présente dans le champ de l'art et même auprès notamment de jeunes générations d'artistes. Il y a plein de raisons pour ça, mais aussi d'artistes qui ont déjà toute une histoire. Et on peut quand même penser que, on peut quand même se dire, par exemple, que quelqu'un comme John Giorno, qui est à la fois poète et artiste, a eu une immense exposition personnelle au Palais Tokyo. Le 14 juin ouvrira au Confort Moderne de Poitiers, qui est un centre d'art, une exposition dans laquelle vous aurez une salle entière consacrée à un poète que moi j'adore, qui est Kenneth Goldsmith, quelqu'un qui réfléchit, poète américain, qui réfléchit beaucoup sur la situation de la littérature aujourd'hui autour avec le numérique, Internet et la question des écrans. Et il fait une exposition à Poitiers qui d'ailleurs retraitera la question des emails de Michelle Obama. Bon, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a cette présence étonnante de la poésie et paradoxale par rapport justement à son existence moins visible dans le champ même de la littérature. Et ça, je trouve, c'est aussi ça qui fait que voilà, qu'on peut avoir des formes intéressantes et que c'est voilà, pour moi, c'est à la fois un paradoxe, mais je trouve que ça donne raison aussi à cette question de sortir, à cette question d'aller chercher d'autres formes, d'aller chercher d'autres espaces, le mur, la scène, le film, l'écran, quand on existe difficilement dans son propre espace.
C'est votre rapport aussi, Florence ?
Oui, moi je suis entièrement d'accord avec ça. Et en plus, je pense que ce que vous dites là renvoie justement à une vision de littérature, aussi de la littérature comme endroit du pouvoir. Alors là, je ne parle pas du tout du pouvoir nommément politique, hein, mais comme endroit aussi d'inconfort de la relation aux arts, qui n'est pas du tout l'endroit de la poésie. Ce pourquoi elle a toujours été le ferment de la littérature et des arts. Et là, je dis la poésie pas littéraire, hein, la poésie comme entendue aussi bien en art visuel, en musique, etc. Parce qu'elle est à la fois cet endroit de résistance. Mais cela dit, vous avez tout à fait raison, Stéphane, et moi, je ne disais pas le contraire. Elle est avant tout formelle, hein, quand je dis, sans être forcément formaliste, quand je parlais tout à l'heure d'indéfini, quand je dis nous n'allons pas la définir, je veux dire qu'elle est toujours quand même ce mouvement de traversée, c'est-à-dire qu'elle est inassignable, mais elle est évidemment avant tout formelle. Enfin, moi, je cite parfois cette phrase de Karl Kraus que j'aime beaucoup, qui est « la forme, c'est la pensée ».
C'est le slogan de Altra Voce.
J'ai mis ça, oui, c'est possible. Je l'avais oublié, oui. Excusez-moi, alors, Morgane. C'est possible. Bon, enfin, ça ne m'appartient pas, de toute façon. Et donc, oui, mais cette question de la forme et cette question-là du déplacement inévitable, parce que je trouve, un des signes vraiment très, très forts de notre époque, et c'est ce en quoi elle est très encourageante, et je trouve que vous avez raison de le dire, parce qu'on ne le dit pas assez. C'est-à-dire qu'en vérité, ce que nous sommes là, ce que nous représentons là, ce que nous inventons en commun avec les gens qui nous écoutent, c'est une chose qui est très, très vivante, en vérité. Elle est très vivante où qu'on aille. C'est-à-dire, quand on traverse comme ça des pratiques, parce que moi, j'ose à peine me dire cinéaste, je suis cinéaste quand je fais un film, mais je suis vraiment, je sais même pas d'ailleurs, c'est exactement ce que je suis, mais ce qui est sûr, c'est que on le voit bien quand on va rencontrer des plasticiens, des compositeurs sonores, des musiciens, quand on va dans des expositions. Et puis cette question, je la trouve très belle, cette question du lieu d'exposition. Comme je trouve très beau comment on réfléchit aujourd'hui justement à la question du cinéma. Comment est-ce que les lieux s'ouvrent et s'inventent en résistance parce qu'il y a une telle mainmise économique de consortiums et d'endroits où l'on modifie, où l'on abîme très profondément le rapport aux œuvres, qu'en parallèle, dans le même temps, s'ouvrent et se créent des lieux et s'inventent des orientations, des directions de lieux, où au contraire, cette chose-là est complètement repensée. Et elle est repensée en grande complicité avec des gens qui sont dans des pratiques très différentes, dans des modes d'invention très différents, et que ce soit scéniques, musicaux, etc. Et c'est très beau, parce que cette question de l'espace, parce qu'on voit bien que quand on touche à la langue profondément, avec cette hégémonie de l'économique, or la poésie, elle est quand même ce qui s'oppose à la langue de la com, c'est quand même ça ce qu'on peut dire, parce que sinon, pour le reste, on ne peut pas en dire grand-chose. Elle est cet endroit de refus, de rare résistance à la marchandisation. Ça ne veut pas dire qu'elle est hors du monde économique, hein, mais en tout cas, au tout marchandise. Et donc ça, je trouve que comment est-ce que des gens réfléchissent à ça et réinventent un espace d'accueil, de réception, réfléchissent, introduisent de la théorie dans leur propre pratique artistique pour réfléchir à cette question du partage, de la réception et du poème qui est toujours adressé, comme disait Mandelstam. Je trouve ça très beau et je trouve que c'est très encourageant.
Pour moi, c'est la raison pour laquelle la poésie est si présente dans le champ de l'art. c'est que le, et ça se joue différemment dans le cinéma, mais si le, le champ de l'art contemporain aujourd'hui est très structuré par le marché, au fond, la partie la plus éloignée, effectivement, du marché de l'art, là, c'est la poésie, au sens où, effectivement, c'est aujourd'hui la forme qui est la moins soluble en termes de, d'industrie culturelle. Et donc, du coup, ça intéresse beaucoup les artistes. Aussi, et aussi, évidemment, c'est parce que la poésie, c'est la possibilité, c'est pas forcément une question pour moi de résistance, mais c'est la possibilité d'un autre ordre de communication que, comme vous dites, la langue de la com. Et donc, on voit, par exemple, certains artistes qui font une exposition et au lieu d'avoir un communiqué de presse de leur exposition, eh bien, mettent un poème sur le mur. Où il n'y a même pas, d'ailleurs, parfois, la date de l'exposition, ni même le lieu de l'adresse. Mais ça, ça leur permet, justement, de déjouer, en quelque sorte, les stratégies de communication d'un lieu, ou d'une galerie, ou d'un musée, etc. etc. Donc, c'est très, très vrai. Et voilà, je pense que là, le constat est très, très juste. Et c'est ça qui donne la pertinence, aujourd'hui, de la poésie dans d'autres espaces aussi.
Et c'est ça qui traverse l'ensemble de votre travail. À chaque fois, il y a une présence extrêmement forte de l'autre, de l'adresse. Chez vous, Stéphane, c'est une occurrence saillante du « c'est mon sacrifice qui allège votre peur ». Chez vous, Jean-Max, à un moment, il y a cette question, cette réflexion lancinante sur tout qui ne serait que question de subjectivité, de regard, de point de vue. Et c'est là que se joue l'ensemble. Florence, vos... Votre manière de filmer à la fois vous, mais de susciter l'échange et d'ouvrir dans vos scénographies beaucoup aussi, avec deux écrans qui font face au public et vous qui répondez, qui dialoguez en ouvrant l'espace justement, est très très forte. Et la manière dont vous composez vos musiques de film, la manière dont aussi vous avez inventé cet espace d'accueil sur Internet qui est ce musée, Philippe, cette question-là de... ouvrir à l'autre, appeler l'autre, est-ce que, et peut-être avant d'ouvrir justement à l'autre qu'est l'auditoire, est-ce que vous avez quelque chose que vous voudriez dire sur l'expérience protéiforme, poreuse et nécessairement plastique que vous proposez lorsque vous mêlez ces gestes-là, lorsque vous frottez ces différentes pratiques artistiques ?
Non, moi je voudrais quand même rebondir sur ce qui vient d'être dit et qui m'apporte beaucoup effectivement sur la vitalité effectivement de la recherche dans ces autres disciplines artistiques qui ont pour le coup une visibilité bien plus grande que celle qui existe en poésie et qui est véritablement pour moi, en tout cas, un stimulant très important dans ma propre démarche. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses assez catastrophiques sur l'état de la création et autres, ou des discours un petit peu réactionnaires, ou que sais-je, sur la création. Mais depuis que j'ai la chance de plus en plus explorer, investir, découvrir, même connaître, fréquenter le travail de certains artistes, je suis totalement stimulé, même boosté par cette créativité et ces moyens nouveaux de recherche qu'ils trouvent dans leur langage propre pour sortir justement des impasses apparentes de modernité arrivée à son terme. Et je pense qu'effectivement, la poésie, malheureusement, ici on n'est peut-être pas au bon endroit pour le dire, mais elle n'a pas cette recherche-là et cette vitalité-là dans la poésie, elle n'a pas la même visibilité que dans les arts plastiques, effectivement, qui ont des structures et des échos bien plus importants dans la société. Mais bon, peut-être, moi, je me dis que cette discrétion, on va dire, de la vitalité poétique est peut-être aussi à son avantage, parce que toute grande révolution est peut-être souterraine et qu'elle travaille les fondations, les fondements. Elle inspire les artistes, donc elle a quand même son champ d'action à elle.
Ouais, je ne voudrais pas être celui qui peut tempérer ça. Effectivement, je constate autant que vous la vitalité de ce qui peut se produire dans la poésie à différents contacts, que ce soit dans le cinéma, dans les arts plastiques ou dans d'autres formes, ou à la radio aussi. Mais je pense aussi qu'il y ait davantage de la question de la rencontre, elle est cruciale, parce que il faut que les artistes et les poètes et les compositeurs puissent se rencontrer. moi, je j'ai aperçu d'une chose en arrivant à l'IRCAM, c'est qu'il y avait quelque part une forme de monde un peu hermétique entre le monde aussi des compositeurs de tradition écrite et le monde des poètes. Autant il y a eu des époques avec très très grande vitalité, très grande proximité entre la musique contemporaine et la poésie. Autant, voilà, c'est un constat qu'on peut faire. Beaucoup de compositeurs travaillent avec des poètes qui sont pas vivants, qui sont des siècles voilà passés. Je dis pas que c'est une chose pas bien, mais que la rencontre en fait de ces deux mondes-là, elle peut être vraiment féconde aujourd'hui d'une autre manière. Mais il faut favoriser ces moments de rencontre. C'est précisément ce qu'on a fait. Alors, avec Laure Gauthier à l'IRCAM, on a monté un séminaire pour justement mettre les compositeurs du cursus IRCAM. Ces 10 compositeurs qui sont choisis à travers le monde, qui viennent passer un an à apprendre la technologie qu'on a développée à l'IRCAM. Et je trouvais que c'était intéressant justement de ne pas être que dans le champ d'une musique mixte, instrumentale et technologique, mais qu'il fallait aussi favoriser cette rencontre. Et donc on a organisé ce séminaire avec Laure, à la fois sur le plan théorique et historique, pour replacer un peu les choses, mais aussi en invitant des poètes, en invitant des compositeurs à montrer comment ils pouvaient travailler ensemble, de quelle façon le texte, la note, la musique aussi pouvaient trouver aujourd'hui d'autres voies, alors avec l'utilisation ou non de la technologie. Mais donc voilà, ce sont des graines hein, qu'on jette comme ça et qui, on ne sait pas dans quel terreau elles vont retomber et si la forme que la plante va pouvoir ensuite donner. Mais le jeu en vaut la chandelle et je crois qu'effectivement, enfin, moi je me suis toujours trouvé dans un rôle de passeur, que ce soit à la radio, que ce soit en tant qu'enseignant, que ce soit aujourd'hui au poste que j'occupe à l'IRCAM, c'est-à-dire que favoriser la rencontre, favoriser, mettre ensemble des choses qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais qui peuvent être fertiles ou qui peuvent aussi totalement rater. Hein, mais on apprend d'ailleurs beaucoup plus de ce qui rate, de ce qui réussit. Voilà. Donc cette expérience-là a donné lieu, ce fait que sur les 10 compositeurs du cursus, il y en a 3 qui vont travailler avec du texte. L'un avec un texte personnel qu'il a travaillé lui-même, un autre avec à partir d'un texte de Katia Butcheva, et puis ensuite un autre qui travaille avec Dominique Kellen. Voilà, ça a été une rencontre dans les deux sens, et voilà, le concert aura lieu. Je vais faire aussi le concert cursus aura lieu le 18 juin. Je vous y invite. C'est un concert gratuit qui se déroulera au 104. Les 10 compositeurs vont présenter leurs travaux d'un an de travail à l'IRCAM dans le cadre du Festival Manifeste. Voilà, vous y êtes cordialement invités. Il y aura ces 3 tentatives qui, à mon avis, sont des réponses en tout cas encourageantes, mais le travail est encore vraiment à faire. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Vous avez raison de l'exposer, je pense, vous avez raison de la faire dialoguer avec l'image, de la confronter aussi aux arts plastiques ou de la considérer elle-même comme un art plastique. Voilà, mais les choses ne sont pas encore faites. Il faut continuer à travailler, je pense.
Non, ça me faisait penser à ce terme qui m'est revenu tout à l'heure, qui est un terme russe, qui était ostranienie, je crois, c'est-à-dire voilà. Et je pensais à l'étrangéisation, qui est une chose qui est très très. Et je voulais faire. Voilà. Je pense que cette question de la rencontre et de la traversée des frontières, là, ça me donnait envie aussi justement de faire un éloge de l'étranger. Moi, mon premier grand choc cinématographique poétique, j'avais 12 ans et c'était Les Chevaux de Feu de Paradjanov. Que j'ai vu parce que j'étais dans un stage de langue russe en Dordogne, au cœur de la Dordogne. Et j'ai toujours gardé des images extrêmement fortes. Et je repense souvent à ce moment où vraiment, justement, la poésie et le cinéma, mais c'est vrai, ont été très, très proches au moment des futuristes russes, hein, justement. Et quand on pense à Eisenstein, à Paradjanov ou à Vertov. Et du coup, cette présence-là, à la fois du peuple, de la foule et de l'étranger, parce qu'on sait que Paradjanov a eu un destin très, très, très douloureux avec des années de travaux forcés, qu'il est mort en Ukraine. J'avais envie de finir par un éloge de l'étranger.
Remarquable. Merci beaucoup. Est-ce que peut-être on peut ouvrir la parole Est-ce que dans la salle, oui. Il faut demander à Yves Boudier qui est derrière, qui est tout derrière, le monsieur avec la moustache en régie. Pardon, moment de régie, de logistique, tout au fond. Madame Yves, une question pour toi de madame. Est-ce que dans l'attente, une question se pose? Et sinon, oui, madame?
J'ai j'ai pas du tout compris quand vous avez dit que la poésie était de la contre-littérature.
De là ?
Ça, pour moi, c'est...
Pardon. Oui, oui. Je n'ai pas dit que c'était de la contre-littérature. Hein. J'ai dit en même temps qu'évidemment, ça s'inscrivait... Non, j'ai dit que c'était parfois, la poésie, c'était parfois écrite à contre-littérature, à contre-pente d'une domination de ce qu'on nomme la littérature généralement. Bah, pardon de ne pas pouvoir être plus clair, mais ça nous emmènerait dans une discussion peut-être un peu longue.
La poésie comme sortie du cadre.
Alors quand même un petit mot. On entend quelque chose ou pas ?
Oui.
On entend ? Oui. Bon. Je pense que Philippe a dit beaucoup et vous aussi, vous avez dit beaucoup. Mais effectivement, le fait que poète s'inscrive lui aussi, qu'il y ait non seulement les organisateurs de musées, les responsables d'actions culturelles, les cinéastes, pour nous accueillir, mais aussi sortir, être dans l'ouverture en tant que poète, être capable de mener des actions collectives, qu'elles soient éditoriales, qu'elles soient dans des revues, de sortir, de s'ouvrir à des pratiques, de s'ouvrir à des calendriers, à des façons de travailler. Donc effectivement, dans la musique contemporaine, ne pas être pour soi dans ses commandes, mais savoir mettre en présence, ou quand on voit effectivement qu'on parle de poétique, Philippe connaît ma réticence au fait que ce terme de poétique est beaucoup dans le multimédia, mais souvent sans poète. Effectivement, de passer à des actions où il y a du multimédia poétique avec poète, et pas seulement la scission de la poésie sonore et la poésie écrite qui a marqué des années depuis la crise du lyrisme, depuis le début du XXe jusqu'aux nouvelles avant-gardes, qui était nécessaire, mais de dépasser ça pour que la poésie soit dans les musées, est un art contemporain, et ne soit pas, en tant que poésie sonore, qu'on ne soit pas là seulement faire des performances, mais il y a une pensée de l'image, alors il n'y a pas que Blumenberg sur l'image, il y a une pensée de la plasticité, de la sonorité de l'image. On est tous à l'œuvre, les plasticiens le font, les cinéastes le font, les directeurs de musées ont une pensée de la poéticité de l'image dans sa plasticité, dans sa sonorité, les poètes aussi. Effectivement, ça demande de mener des actions transversales collectives pour que petit à petit, la poésie, qu'elle soit écrite ou sonore, peu importe, pense et qu'il y ait une pensée, moi je le vois dans le travail avec des plasticiens ou des compositeurs, il y a une pensée ensemble dans le temps. Donc ça pose la question du temps et de la pression sur le temps d'ailleurs. Il est plus simple de prendre un poème d'Emily Dickinson ou de je ne sais qui et de le coller à une œuvre multimédia. Mais tous ceux parmi vous, et vous le faites, qui travaillent avec des poètes dans le temps, on fait bouger ensemble de façon concentrique une conception de l'image, une conception de la plastique, une conception sonore et bien plus, bien évidemment, je ne vais pas ouvrir des portes. Donc c'est important, on a besoin de tout ça. Et aussi, bien sûr, que les poètes s'ouvrent à s'ouvrent et aussi une pensée collective. Voilà, donc on a besoin de tous les étages. Et c'est ça qui est très... qui, dans la dureté de l'époque, bien évidemment, c'est le fait de se cabrer ensemble qui est espérant, enfin, qui est beau. Merci des actions menées.
Une autre question ?
Alors, en l'absence d'autres questions, j'aimerais seulement dire mon plaisir d'avoir tempéré une table ronde placée, en fait, sous le signe de tout autre mot que la rencontre, mais la vitalité, le désir de faire et l'espoir. Merci beaucoup à vous, tous et toutes, et merci à vous.